psychanalyse, vous savez qu'on parle d'inconscient. Alors, je vous ai fait, bon, d'abord, je vous ai mis au tableau les points essentiels que nous pourrions travailler, si vous êtes d'accord. Donc, qu'est-ce que l'inconscient? Le développement psychogénétique. L'inconscient est structuré comme un langage. Comment lire un inconscient? Donc, plusieurs grilles de lecture possibles. Le langage, bien sûr, le rêve, le dessin, l'écriture, au travers de phonèmes et de morphèmes. Ce n'est pas, vous le verrez, de la graphologie. Hein, je n'ai pas de formation en graphologie. Et bien sûr, donc, la psychogénéalogie, qu'on rencontre maintenant sous l'appellation de génosociogramme, mais qui, en fait, s'étaye donc sur les névroses de destinée, les névroses familiales, donc les compulsions de répétition, que les lacaniens appellent maintenant plus précisément les invariants. Et donc, bien savoir, c'est quand même des sens psychanalytiques, malgré certains auteurs qui, actuellement, cherchent à récupérer une paternité. Mais effectivement, on reste quand même donc dans un axe très psychanalytique. Alors, Inconscient et destin, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Françoise Dolto. Alors, on ne l'a pas trop plagié. On va essayer de laisser ça donc sous forme d'interrogation. Un couple légitime. Donc, on essaiera de travailler autour de cela, si vous êtes d'accord. Alors, un inconscient, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, à la fois, c'est la partie la plus intime de l'individu. Et c'est celle que nous méconnaissons le plus, à moins d'avoir fait un travail sur soi. Je prends toujours les mêmes exemples primaires. On décide de faire un régime alimentaire, parce qu'on estime qu'on a quelques kilos à perdre. Le médecin s'en est peut-être même mêlé en nous le conseillant. On est plein de bonnes intentions, on achète tout ce qu'il faut, et on n'arrive pas à respecter, donc, effectivement, une conduite alimentaire prescrite. Donc, ce qui prouve bien que les leviers de commande se situent ailleurs, se situent effectivement dans un espace psychique relativement inaccessible à la conscience. Souvent, on le voit, il y a des parents qui nous disent « Oh, mon enfant ne veut pas travailler, il est paresseux, il n'a pas de volonté. » Il y a une raison. Donc, effectivement, en psychanalyse, au niveau de l'inconscient, on travaille sur la cause. L'effet, nous nous étayons dessus, bien sûr. C'est ce qu'on pourrait, vous le verrez d'ailleurs si on a le temps de s'y attarder, c'est ce qu'on pourrait appeler le langage, on pourrait dire la façon dont nous nous exprimons cette langue dite maternelle. On pourra peut-être aussi passer par le fait qu'elle n'est pas uniquement maternelle. Et en analyse, surtout si on est lacanien, on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle donc le discours. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, en ce qui concerne Xavier et moi-même, donc nous sommes psychanalystes, mais de formation linguistique et philosophique, et donc pas médicale. C'est-à-dire qu'en fait, en guidance de cure, on ne s'attaque pas aux symptômes. Au contraire, on en fait un allié. On le verra aussi, je pense, le symptôme est parlant, hein, bien sûr. C'est le signifié. Nous travaillons donc, si on est lacanien, sur le signifiant, donc encore une fois, sur cette partie méconnue de l'individu. Alors, je vous ai fait un schéma qui n'a strictement aucune valeur psychanalytique dans sa présentation. Vous avez donc là résumé de façon très simpliste le départ des travaux freudiens. Donc, Freud s'est rendu compte, notamment en 1900, donc date à laquelle il a postulé donc ses premiers travaux, il y avait un conscient. Vous pourriez me dire, je suis venu en train, en avion, en voiture, etc. Je parle, hein, je suis un être parlant, effectivement. Cette partie donc méconnue a priori de l'individu donc qui est l'inconscient et qui est donc séparée du conscient par une espèce de couloir qui est donc appelé le préconscient. Donc premier travaux de Freud 1900, les travaux donc sur la première topique. Si j'oublie le prénom de ma meilleure amie, même quelques instants, on dit qu'il y a refoulement. C'est-à-dire que ce barrage se verrouille. C'est donc ce qu'on appelle aussi l'acte manqué. Et dans notre jargon professionnel, ça porte un nom qui est la scotomisation. C'est-à-dire que si j'oublie un nom, si j'oublie une date, eh bien on va dire que je scotomise. Et on sait qu'il y a une résistance. Une séance analytique bien menée fait qu'il va y avoir levé de la résistance et son opposé est appelé l'abréaction, c'est-à-dire que nous avons effectivement une lutte inconsciente entre deux instances là que je vais vous expliquer sommairement, donc le ça et le surmoi, et cette lutte inconsciente donc qui génère de la résistance, s'appelle le complexe. Donc là, on va aller voir donc, au niveau de l'inconscience ce qui se passe. Nous sommes des êtres de plaisir, et donc Freud a appelé cette instance de plaisir débridé le ça. Il a d'ailleurs dit au commencement était le ça. On sait que le petit homme, effectivement, quand il vient au monde, découvre très rapidement, après le traumatisme de la naissance, que sucer a quelque chose déjà d'érotique. Hein. C'est donc une pulsion dite psychosexuelle. Ce n'est pas encore directement, effectivement, la sexualité telle qu'on peut l'entendre à l'âge adulte. Mais c'est vrai que l'être humain donc, est un être de plaisir. Il va très vite se heurter, donc cet inconscient, au surmoi qui est un censeur. Ça peut même être dès le départ de la vie, c'est-à-dire que un bébé a envie de rester au sein ou a envie d'avoir une ration de lait plus importante. Bon, la mère estime à juste titre que c'est suffisant. Elle va s'opposer donc à ce qu'on pourrait appeler de la jouissance d'ailleurs, plus que du désir, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout construit à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une immaturité pulsionnelle qui est très grande. Et donc, le surmoi, donc en véritable arbitre, pas toujours juste, hein, puisqu'en fait, il répond aussi à des schémas d'éducation qui sont très souvent basés sur des interdits qui peuvent être discutables finalement et qui sont souvent liés d'ailleurs à des peurs transgénérationnelles. Je pense qu'on le verra avec Xavier tout à l'heure. Mais effectivement, donc il va y avoir une espèce de conflit un petit peu permanent. Alors, dans la journée, on peut être fatigué, ou on peut se fouler la cheville, ou on peut avoir la grippe, etc. Eh bien, on sait analytiquement parlant, effectivement, qu'il y a donc une lutte entre le ça et le surmoi. Donc, qui en fait les frais, c'est le moi, ou soma, c'est-à-dire effectivement le corps. Donc, la somatisation découle de cette lutte, et Freud donc a expliqué que le symptôme était l'extériorisation d'un conflit interne. On sera peut-être amené d'ailleurs à travailler sur les couples d'opposés, puisque c'est quelque chose qui est très important donc, dans l'approche de la cure analytique. Le petit homme, au départ, a rencontré un rapport de contenant-contenu, et puis du dedans, il est passé au dehors, et puis très vite, il a rencontré le plus grand, le plus petit, le plus fort, le plus faible, etc. Donc effectivement, des rapports de dominant à dominé, ce qui nous fait souffrir. Donc effectivement, tous les complexes d'infériorité ou de supériorité, ce qui revient à peu près à la même chose, s'originent effectivement dans cette lutte qui nous fait rencontrer donc, des couples d'opposés. Voilà, donc c'est une présentation sommaire. En ce qui concerne ce que je ne vous ai pas dit, en ce qui concerne donc les travaux sur le ça, le surmoi et le moi, si ça vous intéresse, sont des travaux donc, qui ont été postulés 20 ans plus tard, en 1920, et que Freud donc, a appelé les travaux sur la deuxième ou sur les deuxièmes topics. Il serait peut-être intéressant que rapidement je vous explique aussi ce qu'est une cure analytique. Donc la cure analytique, bien sûr, travaille sur l'inconscient. Nous voyons arriver en règle générale deux grands profils de patients. Donc les névrosés, effectivement, ça peut aller de simples angoisses à des conduites d'échec, donc à des souffrances d'ailleurs, très souvent, qu'on arrive mal à identifier, parce qu'on peut rester globalement honnête avec soi-même, sans trop se plaindre, se dire finalement je me plains, je me demande bien pourquoi, parce que bon, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai un travail, pourtant ça ne va pas. Donc la névrose n'est pas fatalement quelque chose de terrifiant. Donc la névrose est effectivement l'aboutissement tout à fait négatif donc, d'une lutte perpétuelle entre le ça et le surmoi, et donc un surmoi qui finit par avoir une influence extrêmement censeur donc, sur le moi. Dans ce cas-là, effectivement, le surmoi finit quand même par engendrer donc, des misères somatiques. Si nous prenons l'exemple du psychotique, donc des gens qui connaissent des désordres mentaux, qui ont souvent des conduites incohérentes ou un verbe incohérent, eh bien, cette instance qui, quand même, quelque part, s'apparente à la loi, elle peut être excessive, je l'ai dit, mais cette instance va subir plus qu'un déni. Jacques Lacan disait que c'était de l'ordre du trou. Il appelait ça la forclusion, c'est-à-dire que la loi n'existe pas, il n'y a plus de limite. Donc, on dit qu'un psychotique, effectivement, exerce en fait une espèce de rapport étroit entre le ça et le moi. C'est-à-dire qu'on voit, c'est le plaisir débridé. C'est une quête effrénée de plaisir avec souvent des conduites à risque insensé, etc. Et ce sont des gens, vous le savez, qui n'entendent pas, puisqu'effectivement, il n'y a pas de repères extrêmement précis, donc encore une fois, au niveau de limites. Alors, en ce qui me concerne, et malgré ce qu'a conseillé Jacques Lacan, je ne reçois pas, moi, en cure analytique et psychotique, parce que ce qui m'intéresse, justement, peut-être par des formations professionnelles, c'est de travailler sur le langage, c'est de travailler sur le discours, et je trouve que c'est ce qui fait de mon métier quelque chose donc, de passionnant. Je dis toujours que je pense que prendre en charge les psychotiques, à mon sens, relève, si on veut être raisonnable, honnête, en fait, plutôt encore d'études expérimentales. Bon, maintenant, je ne veux pas dire donc par là qu'il ne faille pas prendre en charge les psychotiques, mais à mon avis, ça reste encore du domaine de l'institution. Vous savez qu'on pourrait faire, vous en doutez, beaucoup d'argent avec des parents qui ont des enfants autistes, notamment, qui craquent complètement. Et je trouve qu'il n'est pas honnête de les prendre parce qu'on est en chemin, par exemple, quant à l'autisme ou d'autres pathologies lourdes, mais il ne faut pas rêver. Moi, à mon sens, ce n'est pas une psychanalyse qui peut rétablir comme ça, en l'absence aussi d'un environnement médical qui peut rétablir une cohérence, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le lien en analyse, puisque le névrosé nous permet de travailler dans la mesure où il est capable de faire réapparaître un lien de cause à effet, bien sûr, parce qu'on l'a vu, il s'agit d'un refoulement. Bon, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'oublie la date de naissance de ma mère que d'ici quelques heures elle ne me reviendra pas. Bon, certes, ça traduit une lutte, ça traduit une certaine agressivité, un certain déni, mais disons que la guidance de la cure, donc la méthode et la méthodologie psychanalytique vont faire réapparaître du lien et petit à petit, la cure fera qu'il y aura un continuum et effectivement, l'individu pourra tout à fait ensuite s'autogérer et il n'aura plus besoin donc de se béquiller. Par contre, au niveau de ce trou, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur la problématique du lien. Encore une fois, pour moi, il faut véritablement être chercheur. Voilà, c'est une position très personnelle, hein, parce qu'il y a peut-être parmi vous des psychanalystes ou des psychologues ou des psychiatres qui voient les choses autrement. Et on a le désir, toutes les deux, de vous donner la parole dès que vous en exprimez le besoin. Même si maintenant, vous voulez le faire, vous pouvez. Y a-t-il des questions là à ce stade? Non? Ça va? C'est pas trop rébarbatif?